écoute, c'est du belge.
Du stoner psychédélique made in la Louvière, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Giacomo Panarisi. Il vient nous parler de son projet musical qui s'appelle Jack Taylor. Il vient surtout nous présenter son premier album qui s'intitule The Last Sicilian Standing. Salut Giacomo, je suis ravi de te recevoir sur Ultrason.
Avec plaisir.
Alors Giacomo, on va commencer par faire un peu connaissance avec toi. Donc t'es originaire de la Louvière, t'es connu pour être le frontman du groupe Romano Nervoso. Puis parallèlement à Romano Nervoso, tu as ce projet qui s'appelle Jack Taylor. T'avais envie de faire un nouveau projet ?
En fait, c'est pas forcément que j'avais en tête de faire un nouveau projet. C'est ce qui s'est passé, c'est que pendant la pandémie, on était un peu tous bloqués à la maison, on se faisait un peu chier. Et j'ai toujours voulu faire des albums solo. Et du coup, c'était le moment, vu que j'ai un studio et que j'ai mon meilleur ami qui gère ce studio-là, il m'a dit, écoute Jack, t'as toujours voulu faire des albums solo, je pense que c'est le moment. Et à la base, je pensais que ça allait rester un projet uniquement écoutable sur vinyle ou en streaming. Et puis, on a commencé à faire un concert et de là, c'est parti. Et maintenant, c'est mon métier.
Qu'est-ce qui différencie un peu Jack Taylor de Romano Nervoso ? C'est surtout au niveau de la musique ?
Déjà, il y a la musique. Romano, ça peut passer du punk rock au power rock ou hard rock. Jack Taylor, c'est beaucoup plus du stoner psychédélique. Et surtout, y a la grande différence entre Romano, c'est plus, je suis plus chanteur entertainer. J'essaye de divertir le public, de l'agresser. Je suis habillé en glam, je suis très extravagant. Ouais. Et dans Jack Taylor, là, c'est plutôt, je suis batteur-chanteur. Et c'est pas un personnage comme Romano.
Ouais, c'est la musique qui te ressemble, quoi.
C'est moi, en fait. Ouais, parce que je m'appelle Giacomo Panarisi Taylor. Parce que mon épouse s'appelle Taylor et depuis que je me suis marié à Las Vegas, j'ai pris son nom de famille.
Ouais, d'ailleurs, c'est chouette d'avoir une casquette avec son nom dessus.
Exactement.
Alors donc, ouais, c'est un projet solo. Tu voulais faire un projet solo, même si tu es entouré de musiciens.
Oui, je suis entouré de musiciens parce que sinon, ce serait un one-man band. Ce serait vraiment difficile à faire. Mais oui, j'écris tous les titres, les paroles, je trouve les deals, je fais les arrangements. Je fais les maquettes tout seul. Et après, je les propose aux musiciens qui, eux, jouent mieux que moi, à part la batterie, quoique. Mais en studio, ouais, c'est mes musiciens qui font tout le reste.
Alors, tu parlais de stoner psychédélique. C'est quoi le stoner psychédélique ?
Le stoner, à la base, c'est une mouvance musicale qui a explosé dans les débuts des années 90 avec des groupes comme Caius, Fu Manchu. Mais on va dire que les vrais créateurs du stoner, c'est un peu Black Sabbath. Donc c'est à la limite du métal, comme ça c'est un son qui est très lourd, qui est très répétitif. Ils appellent ça du stoner parce que le stoner c'est les mecs qui fument des joints et donc qui aiment bien réécouter le même riff pendant longtemps, comme les Rasta, si tu veux. Si tu veux un peu le stoner, c'est le reggae des rockers et le psyché parce que j'essaye de mettre des ambiances avec des synthétiseurs. Puis ça parle aussi, les paroles vont aussi avec, ça parle vraiment des aliens, des serial killers, des drogues et tout ça, c'est côté psyché, il est un peu plus là-dedans en tout cas.
Ouais, tu parlais de Black Sabbath, c'est quoi tes sources d'inspiration en fait ?
L'inspiration de Jack Taylor, c'est Black Sabbath d'office. Il y a un groupe que je surkiffe énormément, ça s'appelle Black Mountain. Et puis il y a aussi ce mélange cinématographique. Moi je suis fan des films d'horreur, du giallo, de tout ce qui est macabre. Donc c'est un mélange... on va dire à 75% de musique et 25% de visuel et de tout ce qui peut être dark et sombre.
Ok, alors aujourd'hui, tu viens nous présenter ton album qui s'appelle The Last Sicilian Standing. Oui. C'est officiellement ton premier album.
Oui, c'est officiellement le premier album avec les musiciens. J'ai fait d'autres disques, là où j'étais complètement tout seul, mais ça, c'est vraiment le premier depuis qu'on commence à faire des concerts, depuis que Jack Taylor est lancé. Officiellement, c'est celui-ci, c'est The Last Sicilian Standing.
Alors, vous êtes quatre sur scène. Tu peux peut-être nous présenter ton line-up.
Donc, il y a Mick Torres qui, lui, est guitariste. Il y a Diego Di Vito qui, lui, est bassiste. Et le troisième, c'est Angelo Guttadoria qui fait du clavier et de la guitare.
Ok, Angelo qui joue dans aussi Mezzo Pazzo.
Exactement.
Qu'on attend très bientôt ici sur Ultrason. Alors, tu le soulignais tout à l'heure, toi tu es batteur-chanteur. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça implique d'avoir les deux rôles dans un groupe ?
Ça implique qu'il faut rester un peu plus concentré parce que tu dois jouer deux instruments. Ça implique beaucoup de travail. C'est un exercice que j'avais jamais fait avant, donc j'ai dû m'appliquer. J'ai demandé des conseils surtout à des gens qui savaient chanter et qui faisaient des chœurs à la batterie. Ça demande beaucoup plus de concentration, bah, beaucoup plus de cardio aussi, parce que quand tu fais que danser et chanter, ça va. Mais là, les deux, pour moi, c'était vraiment une épreuve. C'était un peu comme faire un décathlon.
Ouais. Donc, tu dois jouer
47
moins vite.
Ans, c'est beaucoup plus difficile. Ouais.
Tu dois jouer moins vite aussi qu'avec Romano.
Ouais, j'essaye de pas créer des morceaux super rapides, parce que ben, de un, je fais déjà ça avec Romano Nervoso, donc ça n'a aucun intérêt de faire du punk rock avec Jack Taylor. Mais aussi parce que physiquement, si je dois faire un set de 40 minutes super fast et chanté, ben, je crois ouais. que le set s'arrêterait à 15 minutes.
Alors, l'album est sorti ben, il y a pas longtemps, le 14 février.
Ouais.
Un choix ou une coïncidence?
Écoute, non, c'est vraiment une coïncidence, parce qu'on savait qu'on devait le sortir au début de l'année. Et c'est le label qui nous a dit, écoute, le 14 février, c'est libre. Je me suis dit, bah, écoute, d'une pierre deux coups. Comme ça, les mecs qui ne savaient pas quoi acheter pour leur femme à Saint-Valentin.
Pour acheter ton album.
Pour acheter l'album.
Ouais, parce que allez, sur ton album, on retrouve des titres comme Hungry for Love ou bien Best of Love.
Ouais.
C'est un album qui parle d'amour ou pas?
Ben, je parle toujours un peu d'amour parce que je pense que même si je ne suis pas croyant, je suis totalement athée. Je pense que si tout le monde, si aimez-vous les uns les autres, si c'était le cas, ben, je crois que ce ne serait vraiment pas le bordel. Le monde serait meilleur. Donc je parle quand même d'amour parce que pour moi, c'est important d'avoir. D'aimer quelqu'un, de respecter quelqu'un. Ouais, l'amour, c'est ma religion. Si je devais choisir une religion, ce serait l'amour.
Ok, alors tu parlais tout à l'heure des aliens. Quels sont les autres thèmes qui sont abordés dans ton album?
Écoute, ça parle donc des aliens, fortement. Ensuite, ça parle des serial killers, des films d'horreur, beaucoup de la fin du monde aussi, des dogmes. Ouais. Je suis anti-dogme. Ouais, c'est vraiment tout ce que les gens ne croient pas.
Moi, j'y crois fortement. C'est un peu dark second degré ou c'est vraiment degré là?
Non, je suis convaincu. Je trouve que les serial killers, hormis ce qu'ils font, c'est des êtres extraordinaires parce que souvent ils sont très 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 intelligents. Donc ils arrivent à faire des saloperies que il faut vraiment être taré et un minimum intelligent pour le faire. Donc je ne respecte absolument pas ce qu'ils font, mais ça me fascine. Comme les mafieux, la mafia, c'est un truc qui me fascine. Même si je suis contre, je me dis comment on en arrive à ça, tu vois. Puis les aliens, ben ouais, moi j'y crois parce que ben j'ai vu des ovnis. Bon, maintenant ça se peut, c'est une technologie qu'on ne connaît pas et qui est humaine, j'en sais rien. Mais moi, je crois vraiment aux aliens parce que si on est les seuls cons à exister dans l'univers, ben ce serait vraiment dommage. Et le reste, tout ce qui est dark, ouais, vu que je suis fan de films d'horreur et de tout ce qui est tout le côté sombre de l'être humain, moi ça c'est un truc qui me fascine, ouais.
Allez, on va écouter un premier extrait de ton album. C'est le morceau Hungry for Love. Écoute, c'est du belge, on est en compagnie de Jack Taylor, on écoutait Hungry for Love qui figure sur l'album The Last Sicilian Standing. Alors, The Last Sicilian Standing, on peut traduire par Le Dernier Sicilien Debout. Pourquoi, ouais. Pourquoi ce titre?
Tout bêtement, je regardais le film Dead Man Walking, qui est un super film, qui là aussi parle de serial killer et de prison. Et je sais pas, pour rigoler, je dis « Ah putain, The Last Sicilian Standing », je dis « Ah, ça sonne vraiment bien ». Et puis bon, comme je suis sicilien et que... Il y a de moins en moins de Siciliens qui font du rock'n'roll. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va faire comme Le Dernier Samouraï ou je suis le dernier Sicilien qui est debout à faire du rock'n'roll.
Alors, c'est un album qui a été enregistré en Belgique. Mm-hmm. Ouais, le public belge, il est friand de ce genre de musique ou c'est un peu une niche comme ça et c'est difficile de se faire connaître ou d'attirer du public?
En tout cas, il y a un public pour ça qui est mais beaucoup plus présent, je vais même dire, c'est pas le double, le triple chez les Flamands. Les ouais. Flamands ont vraiment...
Ouais, c'est pas la première fois que j'entends.
Ouais, non. On va dire que les Wallons ont plus été bercés au pop-rock, aux trucs un peu gentils comme les Girls in Hawaii ou Charcot, genre de trucs, que les Flamands, ils ont des groupes comme, tu prends Brutus, Gnome et tout ça, c'est des groupes qui font des tournées mondiales et qui font ce genre de musique. Donc, en Wallonie, bon, avec la renommée de Romano Nervoso, les gens sont curieux. Et ils restent étonnés du résultat. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, qui achètent nos bazars. Mais les concerts qu'on a fait en Flandre ou en Allemagne ou en Angleterre, Hollande, là tu sens que le public est demandeur.
Ouais, tu joues beaucoup à l'étranger aussi.
On a fait, si tu fais le compte, je pense qu'on a fait quasi 50-50, 50% des dates en Belgique et les autres à l'étranger.
Ouais, t'es un peu obligé d'exporter ta musique comme ça.
Ben, c'est un peu un but parce que tu sais, la Belgique, t'as vite fait le tour, donc il faut quand même essayer d'aller jouer à l'étranger, parce qu'à la base, moi, quand j'ai voulu faire de la musique, c'était aussi de pouvoir voyager, rencontrer des cultures. Vu que je suis gamin, c'était 50% de mon but de faire de la musique, c'était de m'exporter, oui.
Ouais, ouais. Au niveau des radios, comment ça se passe? Est-ce que tes titres, quand tu les crées pour les radios, ou bien tu fais ce que tu veux, ça passe pas?
Non, moi, je suis autant dans Romano que dans Jack Taylor, je fais pas de concessions artistiques. Genre, j'écris et j'enregistre des morceaux que je veux entendre et que je veux acheter. Après, par exemple, j'ai été surpris que Classic 21 ait passé un morceau en full rotation.
Oui, il passe régulièrement.
Donc j'étais assez étonné parce que c'est pas la came de Classic 21 à la base, même s'ils diffusent des morceaux en soirée parce qu'ils savent reconnaître que j'ai quand même écrit un minimum des bons morceaux. Mais j'étais vraiment, vraiment étonné. Le seul truc, c'est que quand t'as un morceau de 5 minutes, t'essayes de faire un radio edit, tu le passes à 3 minutes 30, ce qui était le cas avec Hungry for Love. Si tu l'écoutes en streaming, il fait 6 minutes.
Tu parlais d'écriture. Au niveau des compos, comment ça se passe dans le groupe? C'est toi qui écris tout?
Ouais, c'est moi qui fais tout de A à Z. Je fais majoritairement aussi les arrangements, les paroles. Ça se passe que je me lève, j'écris tous les jours, en fait, parce que j'ai des mélodies qui me passent par la tête tout le temps. Et une fois que j'écris des titres, je me dis, est-ce que ça sert plus sur Jack Taylor, plus Romano? Je contrôle pas. Disons qu'à un moment donné, si je sais que je vais aller enregistrer un album, là, je me mets dans un cocoon où je me dis, mais il va falloir que je me base plus à écrire du Jack Taylor ou du Romano. Ici, bon, l'album est sorti, je dois sortir dans l'année, j'aimerais bien sortir le Romano Nervoso. Ça veut dire qu'ici, au mois de mars, je vais me mettre dans une bulle où je vais écrire des titres plus pour Romano Nervoso.
Tu arrives à vraiment dissocier les deux?
Ouais, quand il le faut, en tout cas. Quand j'ai vraiment des dates limites, des dates butoirs, là, je me force. Mais globalement, je me lève, il suffit que j'entends un bruit qui me fait penser à une mélodie, je pars là-dessus, j'enregistre mon téléphone, puis je vais chez moi, je prends la guitare, je compose, et puis je vais au local et je mets tous les autres instruments.
Un super créatif.
Bon.
est-ce que tes musiciens ont leur mot à dire, ou alors c'est vraiment toi qui décides tout?
Disons que quand on enregistre en studio, où on répète les morceaux, là, je leur laisse totalement la liberté de ce qu'ils veulent. Mais vu que j'amène quand même tout quasi à 90% et qu'eux sont tout à fait contents de ce que j'amène, c'est jamais qu'ils m'ont dit ce morceau-là est pas terrible ou cet arrangement-là est pas terrible. J'ai la chance que mes musiciens me font une confiance aveugle, qui jusqu'à présent, je me suis rarement trompé dans ce que j'ai fait artistiquement, parce que bon, ça fait quand même des années que je fais ça. Et puis on est des amis avant tout, donc je pense qu'ils sont contents de ma manière de composer.
J'ai lu que tu composais aussi pour d'autres artistes.
J'ai bossé pour un ou deux films. Là, c'était vraiment des commandes. On m'avait demandé de faire des morceaux parce que je coûtais beaucoup moins cher que les Américains. Sinon, j'avais fait des scores, mais qui n'ont jamais été pris parce que la dernière minute, dans le milieu du cinéma, c'est de pire en pire. C'est vraiment une niche encore plus serrée. Je me suis fait entuber à la dernière minute par des Américains ou des Anglais. Mais pendant le Covid, j'avais écrit, je sais plus c'était quel pays qui cherchait des
musiques. J'ai lu une chanson pour l'Eurovision.
Ouais. Je leur ai vendu deux titres. Ils me les ont achetés. C'est pas ceux-là qui ont été pris, mais ils me les ont achetés. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'écrire des albums pour eux. Mais il faut que j'ai vraiment, faut que je sente avant tout la personne humainement. Je veux pas faire ça pour le pognon parce que sinon, ce serait vraiment aller contre mes valeurs.
Ouais, ouais.
J'essaie d'écrire des trucs qui, moi, me correspondent. Maintenant, si tu me demandes d'écrire un album de reggae, il est l'heure de questions. Parce que
ouais, c'est ça.
J'aime pas le reggae et je sais pas jouer du reggae. Même de la pop, je suis très mauvais là-dedans. Ou du black metal, je saurais pas le faire non plus. Mais si la personne me le demande, elle est cool et qu'on parle le même langage, oui.
Et au niveau des collaborations, par exemple, ta collaboration avec Fred Lanny qui joue du blues, c'est pas vraiment du stoner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse aussi. Tu avais d'ailleurs créé un groupe, Devil's Barkers, qu'on avait pu voir au Roots and Roses.
Mais moi, je suis à la base amateur de musique en général. Je te dis, moi, par on va dire le Thunderdome, hardcore ou le reggae. Je sais pas pourquoi, mais le reggae, j'y arrive pas. j'ai 4000 CD à la maison, 2000 vinyles. J'écoute de la musique depuis que je suis gamin. Donc si on parle le même langage, avec Fred, on est tous les deux fans de blues. Que tu le veuilles ou non, le blues, c'est la musique à l'ancien, le rock and roll, qui a lancé l'hard rock. Donc, c'est normal qu'on allait collaborer ensemble. En fait, de collaborer aussi avec BJ Scott, c'était cool aussi parce que c'est une super chanteuse qui écoute la même musique que moi. Avec les Américains, c'est la même chose. On parle le même langage. Donc, dès qu'on parle de cette musique-là et qu'on, humainement, on s'entend bien, bingo, on le fait, quoi.
Ok, allez, je propose qu'on écoute un deuxième morceau, ça s'appelle Path of Love. On est toujours en compagnie de Jack Taylor, on écoutait Path of Love. Alors, les deux morceaux qu'on vient d'écouter, bah, c'est deux morceaux qui sont accompagnés de vidéoclips. C'est important pour toi d'illustrer tes morceaux par des clips vidéo ?
Oui, parce que bah, le métier de musicien, il n'y a pas que faire des albums, des concerts et de la promo. Il y a vraiment les réseaux sociaux qui sont là. Donc, il faut faire des clips parce que bah, tu es obligé de passer par les réseaux sociaux. Et au lieu de faire des bêtes vidéos... tout le monde, que je ne sais pas faire parce que je ne saurais pas quoi raconter, j'ai décidé de chaque morceau, d'essayer de faire un clip avec. J'ai la chance de bosser avec des gens qui ont des bonnes idées, qui travaillent très bien, qui ne coûtent pas trop cher non plus. Parce que
ouais, c'est Ludwig hein, qui a fait ton clip.
Ludwig, ouais. Angelo, mon guitariste, fait aussi des clips. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais bien commencer un peu à chipoter avec l'intelligence artificielle parce qu'il y a moyen de faire des chouettes trucs avec ça aussi. Mais ouais, j'essaie de toujours de garder aussi un thème de noir et blanc, un truc cinématographique, toujours avec un peu d'humour. Mais je pense que c'est quand tu sors un morceau officiel, c'est toujours cool d'avoir soit une session live ou soit un clip qui s'y colle quoi.
Au niveau de l'intelligence artificielle justement, ouais. Au niveau créatif, c'est quelque chose que tu pourrais utiliser pour créer ou bien t'as assez d'idées comme ça ?
Il est hors de question que.
Je sais pas pourquoi vraiment... je savais que t'allais répondre ça.
Bah ouais, parce que j'ai vu des potes à moi qui sont complètement arythmiques, qui connaissent rien à la musique, et ils t'ont fait un album de métal juste avec deux clics. Ouais. Et les gars se revendiquent musiciens maintenant donc. Faut arrêter, quoi. Faut pas déconner. En plus, c'est froid, il n'y a pas de feeling. Non, ça, pour ça, l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a plein de bons trucs. Mais pour la musique, non, ça, c'est vraiment c'est le démon du rock'n'roll, c'est bien ça, quoi.
Alors, tu parlais de froid, on va plutôt partir maintenant là où il fait chaud, enfin, normalement. On a parlé du premier album, on va parler du deuxième. Puisque le premier album n'était pas encore officiellement sorti, bah, que tu avais déjà enregistré le deuxième, t'es parti pour ça enregistrer au Rancho de la Luna, ouais. Qui se situe bah, dans le désert de Joshua Tree aux États-Unis. Ouais. Pourquoi aller enregistrer aux États-Unis ?
Ben parce que bon, c'est un studio où j'avais été il y a 20 ans et dont la moitié des groupes qui ont enregistré là, ben, c'est quasi mes groupes favoris. T'as des mecs, donc t'as Kaios, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Fu Manchu, ils font les Desert Sessions là-bas aussi. Et il y a 20 ans, quand j'y étais, je m'étais tout le temps dit, c'est une des plus belles expériences que j'ai faites de ma vie, donc je vais retourner. J'avais dit à Dave, un de ces quatre, je vais revenir. Et là, en formant Jack Taylor, donc, qui est une musique assez stoner, désertique, je me dis,
qui s'y prête bien.
Il faut qu'on aille là, quoi. Donc je dis à mes potes, bon les gars, prochain album, on va au Rancho. J'ai contacté Dave, il m'a dit avec plaisir, viens, je t'attends. Et on a fait un truc fantastique.
Ouais, ils font que ce genre de musique-là, en fait. Ils sélectionnent vraiment les artistes qu'ils enregistrent.
En fait, faut qu'ils écoutent ce que tu fais. Parce que bon, si tu demandes à Angèle ou à Suarez d'aller là-bas, ils vont les envoyer se faire chier, c'est sûr. Mais il faut qu'eux, ils aiment avant tout. Il faut qu'eux se sentent capables de développer ton projet-là. Et puis, ils ont un matériel tellement vintage qui, ben, c'est d'office, tu dois faire ce genre de musique. Ou de la musique qui ressemble plus ou moins à ça. Si tu fais de l'électro, du moderne et tout ça, ce matériel ne va pas te servir parce que c'est vraiment que du matériel vintage des années 60, 70.
Ok, et le son est vraiment différent. T'arrives à... Ouais. Qu'est-ce qui change exactement ?
Mais déjà, ce qui change, c'est que t'as 50 guitares. Donc, de la plus vieille, elle est de 61 à la dernière qui date de 2020. 50 ans puis... que ce soit à lampe, à bande, il y a vraiment du matériel que tu retrouves rarement dans... Le piano, il datait des années 30. Et puis, c'est surtout le fait de te retrouver en plein milieu du désert.
Ouais, où, t'as l'atmosphère aussi inspiré, du lieu, quoi.
T'es inspiré par tout ce qu'il y a autour de toi, c'est-à-dire rien.
Ouais, mais tu parles d'inspiration, mais t'avais déjà écrit tes morceaux avant.
J'avais écrit mes morceaux, mais j'avais pas les sons, si tu veux. Donc t'as vraiment, tu vas chercher tel ampli avec telle guitare parce que ça va sonner plus comme ça. Et puis, l'atmosphère là-bas, ça sent la musique partout que t'ailles. Je pense que si tu vas au Joshua Tree, c'est, c'est que pour aller enregistrer des trucs parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.
Ouais, c'est ça.
C'est un super endroit que je conseille à tout musicien qui veut enregistrer un truc vraiment couillu.
Et donc on peut s'attendre à ce que le deuxième album, le son soit vraiment différent du premier.
En tout cas, il sera totalement différent parce que ben, le premier, on l'a enregistré en 3 jours. Celui-ci, on l'a enregistré en 6 jours, mais avec du matériel beaucoup plus poussé parce que nous, le premier, ben, le groupe existait seulement depuis 2-3 mois. Donc on a joué avec un amplificateur, on avait avec ce qu'on avait. Et surtout, ben, ici, ben, le premier a été mixé par un Français. Et donc le suivant a été produit par des Américains. Il va être remixé par des Américains aussi, mais qui ont une oreille totalement complètement différente de la nôtre. Et oui, c'est bien sûr que ça va. Si c'était pour faire la même chose, bah là, on retournait à ce prix.
Combien de morceaux t'as enregistré?
J'en ai enregistré 18. Et après, à mon avis, les 18 vont de toute façon sortir. C'est juste que sur les vinyles, tu peux pas dépasser 45 minutes. Donc là, il faudra faire un choix artistique.
Ouais, donc t'as de quoi en faire un troisième déjà?
Je suis déjà en train d'écrire le troisième, en fait. Parce qu'on va retourner l'année prochaine, à mon avis, au mois de mars. Donc là, je suis déjà en phase de... J'ai déjà écrit quelques morceaux, ouais.
Ok. Alors, mais pourquoi enregistrer un deuxième album aussi vite?
Parce que je suis surexcité, je déteste me faire chier.
Et comme ouais, c'est pas une obligation, quoi. C'est,
non, t'as de la matière. C'est dans ma nature et j'écris des morceaux tous les jours et je suis excité à l'idée de me renouveler, de faire des trucs nouveaux. Ouais, c'est dans ma nature, que ce soit dans la musique ou mais dans tout, quoi.
Alors, on va parler un peu de la scène. Comme moi, bah, tu viens de la Louvière. Qu'est-ce que tu penses de la scène musicale bah, de la région du centre aujourd'hui?
Bah, de la région du centre, écoute, moi j'ai commencé il y a quasi 30 ans. 30 ans après, c'est toujours les mêmes. Enfin, ceux qui étaient là avec moi à l'époque bah, sont toujours là, sont toujours classés dans, malgré tout dans les meilleurs en Belgique. Si tu prends des mecs comme Laurie Stills, les Chénis. C'est des mecs qui jouent partout en Belgique, qui sont réputés en tant que musiciens en tant que tels. Puis les groupes qui ont survécu, ben, ils sont toujours là, ils en donnent toujours autant. Maintenant, tu as la génération d'en dessous qui est peu présente. Moi, et le peu de groupes qui restent ben, de la génération d'en dessous, je trouve qu'ils n'ont pas un niveau encore professionnel. Donc, il va falloir vraiment faire du travail. Je suis un peu pessimiste là-dessus, en tout cas.
Tu as des groupes qui montent quand même, comme Mezzo Pazzo, par exemple, ou les Rackers, qui sont pas nouveaux. Hein, c'est pas un nouveau groupe, Criminal Animal.
C'est des amis à moi, c'est des amis que, ben, par exemple, des Rackers, j'ai produit l'album avec eux. Mezzo Pazzo, je les aide beaucoup, tu vois. Mais, pour moi, je pense qu'ils vont pas au bout des choses. Ils vont pas au bout des choses parce que, moi, c'est mon métier, eux, ça l'est pas. Donc, je pense que s'ils focaliseraient bien dessus, ils auraient vraiment ce qui est déjà un très bon niveau, mais qu'ils auraient c'est des gars qui pourraient être eux aussi professionnels comme on l'est.
Ouais,
nous.
C'est peut-être difficile de se faire son trou aussi, de faire sa place. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'exprimer non plus.
C'est difficile, mais il faut y croire, faut y mettre toutes ses chances et rêver un peu de temps en temps. Ouais. Mais ils ont de la qualité, c'est des groupes qui sont très qualitatifs. Je vais souvent les voir, je les aide dès que je peux. Mais je pense que si à un moment donné ils penseraient de manière professionnelle, bah, ils seraient à ma place aussi. Donc.
Alors, toujours en parlant de scène, bah, tu as fait une release du nouvel album, c'est au Rockrill à Charleroi, hein, c'est un peu ton jardin. Puis tu as aussi fait une autre release en France. Tout s'est bien passé au niveau des releases?
Les deux étaient bien. Je veux dire, Charleroi, bah, ouais, c'était à la maison, donc là, c'était gagné d'avance. Et celle à Paris, j'étais assez étonné parce que. Paris, c'est une ville que je déteste totalement. Le public, les gens. Et là, franchement, c'était blindé.
Voilà,
les gens étaient accueillants. Super retour, bon merchandising. Très étonné. Donc, cette salle m'a fait changer d'avis sur la ville de Paris.
Alors, je pense qu'il y a une vingtaine de dates qui sont programmées.
Ouais, là, j'ai une vingtaine de dates programmées. J'attends pas mal de confirmations encore.
Ouais, notamment aux Deux Ours, hein, des festivals peut-être, fêtes de la musique.
Écoute, on a des fêtes de la musique, on a des festivals en France, on a un festival à Caen. Mais l'album vient de sortir, donc on est seulement en train de développer. Je sais bien qu'au mois d'octobre, on part en tournée quelques dates en Europe. Mais moi, je suis déjà en train de penser au deuxième album.
Bah, tout sera annoncé sur tes réseaux, je suppose.
Ouais.
Ok, Facebook, Insta.
Dès que tout est confirmé, ce sera noté.
Et tout le bazar, ok. Est-ce qu'il y a une scène sur laquelle tu rêverais de jouer, en Belgique ou à l'étranger?
Mais je vais te dire la vérité. Je voulais, à l'époque, j'avais toujours rêvé, quand j'étais gosse, de faire un festival qui s'appelle le Sziget.
En Hongrie, ouais.
Ouais, ouais. J'y ai joué, donc ça c'est fait. En Belgique, bah, j'ai joué dans toutes les salles. Mais. Moi, c'est vraiment mon rêve, si on veut parler de quelque chose en plus, ce serait de faire une collaboration avec, avec Mike Patton, le chanteur de Faith No More.
Ouais.
C'est mon artiste préféré, c'est mon idole. C'est de faire un truc avec lui, ou ne fût-ce que je joue avant lui. N'importe quelle salle, ça je m'en fous, mais ce serait... Le reste, j'ai fait des festivals aux États-Unis, en Angleterre, j'ai fait un bordel de trucs. C'est vraiment de faire un truc avec Mike Patton. Ouais.
Ok, ben le message est passé. Hein. Ce sera le mot de la fin, Jacomo. Merci.
T'en prie.
Il est temps de conclure cette séquence, hein, une séquence que vous pouvez retrouver en podcast sur le www.ultrason.be et sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux, sur la page Facebook Écoute, c'est du Belge. Merci, Jacomo. C'était super cool.
Merci.
Tu reviens quand tu veux sur Ultrason.
Merci.